Chapitre 24. En disant à la Vaupallière que son mari n'en avait plus que pour quelques jours, Hortense ne s'était pas trompée. Dès le lendemain de la coupe des cheveux, il se manifesta des symptômes alarmants et Annivelle, qui vint dans la journée, constata des troubles moteurs avec un commencement de paralysie des pieds et des mains qui l'inquiéta. Assis sur sa chaise longue, le malade laissait pendre son pied en ligne droite, et s'il essayait de l'agiter, c'était en jambe de polichinelle. En se retirant, Annivelle, qu'accompagnait Madame Courteheuse, prononça le mot d'acrodynie. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle. Une affection presque toujours épidémique, caractérisée par des troubles du côté du tube digestif, la perturbation des fonctions du système nerveux, des symptômes fournis par le tissu cellulaire, la peau et les muqueuses oculaires, pharyngiennes, bronchiques. Il débita cette phrase savante avec un ton de professeur ou d'oracle. « C'est grave ? » demanda-t-elle. Le pronostic est en général favorable. Mais tout de suite, il ajouta « Je reviendrai demain. » Dans l'après-midi, Turlure vint prendre des nouvelles du malade et il insista pour voir Madame Courteheuse qui descendit aussitôt qu'elle fut avertie de la visite du pharmacien. Ce n'était plus du tout le même homme que quelques jours auparavant. Sa politesse exagérée avait été remplacée par une sympathie dont il était impossible de ne pas sentir la sincérité. Il eut eu des excuses à présenter, des regrets à exprimer, qui ne se serait certainement pas montré plus affectueux, plus respectueux, plus paternel. Il ne la quitta qu'après lui avoir donné les assurances du dévouement le plus chaud. Puis, prêt à partir, il s'arrêta. « D'après ce que vous m'avez expliqué, dit-il, je crois que les gouttes de Beaumet ne conviennent plus à l'état présent de notre cher malade. Je vous engage donc à les supprimer. Non seulement elles deviennent inutiles, mais encore, elles pourraient être nuisibles. » Quand Annivelle revint le lendemain, le mal avait pris un caractère de plus en plus grave. Le visage était cyanosé, la gorge extrêmement douloureuse, la respiration difficile et embarrassée, le pouls fréquent et faible, les extrémités glacées. Des crampes qui se répétaient à chaque instant arrachaient au malade des cris qu'on entendait du quai. Il écourta sa visite et, en se retirant, il adressa quelques paroles qui avaient l'intention d'être émues à Madame Courteheuse. « Au moins aurez-vous la suprême consolation d'avoir fait tout ce que la science permettait pour le sauver. » Le lendemain, Courteheuse mourut dans une dernière syncope. Et s'il y avait pour sa veuve des consolations dans la pensée dont lui avait parlé le médecin, elle put en trouver de plus vives encore dans la sympathie et les regrets de ceux qui avaient connu son mari et dont les témoignages lui arrivèrent de tous côtés. Au cimetière, Turlure, en sa qualité de premier magistrat de la commune, se fit l'interprète de ses regrets unanimes et le discours qu'il prononça sur la fosse ouverte du notaire, enlevé à la fleur de l'âge, à la tendresse d'une jeune veuve brisée par la douleur, put rappeler à ceux qui étaient nourris des fortes études classiques le modèle dont il s'était inspiré. En entendant ces belles phrases éloquentes, l'oncle Gibourdel en fut si ému qu'on le vit à plusieurs reprises essuyer ses yeux ou ses larmes. Et en revenant à la maison mortuaire, en compagnie de la Vaupallière, il exprima à celui-ci tout son chagrin. « C'est bien triste de mourir si jeune quand on commence à mettre la main dans l'argent. Mais c'est égal, ça doit faire plaisir tout de même de se voir regretter comme ça. » Et ralentissant le pas de façon à s'isoler avec la Vaupallière, il ajouta « Quand nous parlions de ça sur la route d'Orival, j'étais à plus de 100 lieues de penser que ça arriverait si vite. Ce que c'est que de nous. Mais vous savez, ce qui est dit, l'oncle Benoît n'a qu'une parole. » Hortense, veuve, ne pouvait pas continuer à habiter la maison d'Oissel, et d'autre part, elle ne voulait pas aller demeurer chez son oncle comme celui-ci le lui proposa. Elle décida donc de se retirer dans une sorte de communauté, moitié religieuse, moitié laïque, qui reçoit comme pensionnaires les femmes, les veuves et les jeunes, ou plus justement les vieilles filles, se trouvant sans intérieur ou sans famille. Là, elle prit un petit appartement composé d'une chambre avec un cabinet de travail dont les fenêtres donnaient, par-dessus la rue de l'Épée, sur les derrières du jardin de l'hôtel de ville. Pourvu, elles avaient l'abside de Saint-Ouen, à demi cachée dans les arbres, et au-dessus, la tour centrale de l'église, découpant sur le ciel sa couronne ducale si merveilleusement travaillée. Ce n'était qu'un temps à passer, elle s'arrangerait pour qu'il ne durât pas trop. Pour commencer, elle écrivit à la Vaupalière de venir la voir le vendredi qui suivit son installation. Il dirigeait l'étude avant qu'elle fût vendue, il réglait les affaires de la succession, payait les dépenses. Sa visite s'expliquait donc tout naturellement. L'étrange eût été qu'il ne vînt pas lui rendre des comptes et prendre ses instructions. Elle l'attendait à 5 heures, et pour le recevoir, elle fit une toilette qui ne parla ni de mort ni de veuvage. Elle revêtit une de ses robes noires qu'elle portait à Oissel, et dans laquelle il devait la retrouver, telle qu'il avait toujours vue, comme s'il venait de la quitter. Serait-il exact ? Cette question avait son angoisse, car de cette première entrevue, on pourrait augurer l'avenir. Comme 5 heures allaient sonner, on frappa à la porte discrètement. Elle alla ouvrir. Il entra, son chapeau à la main, tenant de l'autre une serviette bourrée de papier. Vivement, elle referma la porte, le prit par la main, traversa le cabinet de travail en l'entraînant, et, arrivée dans sa chambre, après lui avoir enlevé son chapeau et sa serviette, elle le fit asseoir dans un fauteuil. Alors, se penchant vers lui, elle lui jeta les deux bras autour des épaules et s'assit sur ses genoux. « Oh, cher, cher !» Et ce fut un murmure, une musique, plutôt que des paroles nettement articulées. À un certain moment, comme il regardait autour de lui, vaguement, elle détacha ses bras. « Tu es curieux de voir comment je suis installée, » dit-elle. « Passons la visite de mon appartement. Il est assez simple pour que ce soit vite fini. » Quand ils eurent fait le tour des deux pièces, elle l'arrêta devant un placard qu'elle ouvrit. Sur une planche étaient rangées une bouteille de champagne et une eau de Saint-Galmier, une boîte de sardines, une autre de conserve, un pâté, des petits pains, des gâteaux, des fruits. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il. « Notre dînette. Crois-tu que je vais te laisser repartir ? Je te garde jusqu'à demain matin. Quand on viendra m'annoncer à 7 heures que le dîner est servi, je ne répondrai pas et nous ne ferons pas de bruit. On croira que je suis sortie. Tu es entrée par la rue des Faux, tu partiras demain matin par la porte de la rue de l'Épée où il n'y a pas de concierge. Sois tranquille, il n'y a aucun danger, ta femme ne sera pas compromise. » Elle prononça ces derniers mots d'un ton enjoué, comme une plaisanterie, mais le regard qui les accompagnait était sérieux et ému. « Pour quelle heure le dîner ? » demanda-t-il. Son cœur bondit, mais elle n'en laissa rien paraître. « Celle que tu voudras, » dit-elle, « puisque la soirée et la nuit nous appartiennent. Alors nous avons le temps. » Ce fut seulement à la nuit tombante qu'ils mirent la table, car forcés de ne pas allumer de bougie, puisqu'elle était censée absente, ils devaient profiter des dernières heures du soir pour distinguer à peu près ce qu'ils allaient manger. Ce n'était pas seulement pour le plaisir de la dînette qu'elle avait eu cette idée, c'était aussi parce que la table porte à la causerie et qu'il y avait intérêt pour elle, un intérêt décisif, à voir quelles paroles s'échangeraient alors qu'ils auraient plus de liberté d'esprit qu'au bras l'un de l'autre. Avec son habitude d'aborder franchement ce qui l'inquiétait, elle commença la première, aussitôt qu'ils furent à table. « Tu n'admets point, n'est-ce pas, qu'il puisse être question d'affaires entre nous, et pourtant il faut qu'elles se fassent. Je pense donc que le mieux est que tu les traites avec mon oncle Benoît. Seulement, comme il ne me convient pas que tu aies à subir ces finasseries contre lesquelles tu n'aurais pas, dans la situation que te crée notre amour, toute liberté pour te défendre, tu choisiras un notaire, lui en prendra un de son côté, et ce seront eux qui fixeront le prix de l'étude, ainsi que les conditions de vente. Qu'en dis-tu ? Que c'est parfait. » Et ce fut tout. Le nom de Courteheuse ne fut même pas prononcé, et il ne fut fait aucune allusion à sa mort, pas même à sa maladie. À la vérité, il s'établissait parfois entre eux des silences lourds et difficiles, suivi de reprises de causeries dont la volubilité en disait long. Mais, au bout d'un certain temps, quand il fut reconnu par ses expériences répétées qu'il y avait des sujets que ni l'un ni l'autre ne voulait aborder, ils s'entretinrent plus franchement, comme s'ils étaient soulagés d'une inquiétude ou d'une angoisse. D'ailleurs, ils avaient mille choses à se dire, qui se pressaient sur leurs lèvres, dont la principale était d'arranger leurs entrevues, car il allait de soi qu'elles ne pouvaient pas se répéter dans cette maison. Avec son esprit d'initiative, elle avait déjà tout préparé. Dans une maison d'une petite rue qui va de la rue du Champ des Oiseaux à celle de la Valasse, c'est-à-dire à une courte distance de la gare de la rue Verte, elle avait trouvé un petit appartement qu'elle louerait. Ce serait là qu'ils se verraient le vendredi. On leur préparerait à dîner. À minuit, ils se sépareraient. Lui pour prendre le dernier train, elle pour revenir en voiture rue des Faux. Le dimanche, à l'heure où les affaires de l'étude seraient finies, ils se retrouveraient les jours de mauvais temps dans leur nid. Au contraire, quand il ferait beau à une gare en amont ou en aval de Rouen, pour une promenade en pleine campagne, là où ils ne seraient pas exposés à rencontrer des gens de connaissance. Que de jolies promenades ils pourraient faire en amoureuse échappée, elle surtout, qui ne connaissait rien et n'avait été nulle part. La forêt de Roumare, celle de Pont-de-l'Arche, de Jumièges, de Lyon, la vallée de l'Andelle. Et même, pourquoi n'irait-il pas au Havre, dans les villages de la côte jusqu'à Dieppe? Pendant 14 mois, ce programme se réalisa, sans qu'il y eût jamais un manquement, ni une minute de retard d'un côté ou de l'autre, mais au contraire, avec un empressement, une fidélité, une joie, qui disait qu'ils y prenaient tous deux le même bonheur, et ils arrivèrent ainsi, sans un jour de lassitude, au moment fixé pour leur mariage. Les circonstances exigeaient qu'il fût célébré discrètement, dans la plus étroite intimité, ne réunissant que les témoins avec les parents les plus proches. Le père de la Vaupalière et l'oncle Benoît Gibourdel, qui, par son émotion, montra combien tendrement il aimait sa chère petite nièce, dont il ne cessa de faire l'éloge mouillé, tantôt à celui-ci, tantôt à celui-là. Cependant, à la mairie, Turlure, qui avait ceint l'écharpe tricolore par-dessus l'habit noir, crut devoir donner à cette union la consécration de quelques paroles officielles qui, pour n'être pas inspiré par Bossuet, l'aigle de Meaux n'ayant pas prévu le mariage civil, n'en était pas moins frappé au coin de l'éloquence et mettait en lumière les qualités des conjoints, celle de l'époux éminent légis et celle de l'épousée, remarquable entre toutes par la distinction de sa grâce, alliée aux plus pures vertus domestiques. De même, à l'église, l'abbé Charles, venu exprès du Tuit pour la bénédiction nuptiale, ne manqua pas dans un discours écrit spécialement à leur intention de leur rappeler le mariage du Christ avec son église et de le leur offrir comme un exemple qui, pieusement pratiqué, purifierait leur vie et ferait descendre les bénédictions du Seigneur sur leur maison. Enfin, après le déjeuner qui fut copieux, et pendant lequel Benoît Gibourdel trouva moyen de colloquer 4 pipes de cidre à l'un des témoins, et du fameux « vous savez », on les laissa en tête à tête. « Maintenant, dit Hortense, nous n'avons qu'à être heureux. » Et nous le serons. Fin de la première partie.